There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold on, everybody. Here it comes.
Podzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 71, ici Richard Delhomme. Alors aujourd'hui, je discute avec Guillaume Klein qui vient juste de boucler la Race Cross France format 300 km. Alors pourquoi Guillaume? Tout simplement parce qu'à la base, c'est un excellent coureur à pied, un trailer avec de l'UTMB, ce genre d'épreuve au compteur, et qui a profité du confinement pour faire une transition vers le vélo. Et il va nous raconter justement comment il a effectué cette transition. De plus, Guillaume est un féru de diététique, donc nous allons parler alimentation, digestion, produits laitiers et sucre. Également, avant de lancer l'épisode, nous venons de créer notre page Patreon. Patreon, c'est un site où vous pouvez soutenir un artiste ou un podcast si vous le souhaitez. Ça marche sous forme d'abonnement mensuel avec éventuellement quelques avantages. Ce n'est pas spécialement de gaieté de cœur que je lance cela. Mais la situation sanitaire et donc ma situation professionnelle est telle que je suis obligé de passer par un appel à contribution pour pouvoir continuer Spotzol. De plus, la nouvelle version de Spotzol demande davantage d'espace serveur. Il faut aussi subvenir à ses dépenses. Le lien est dans les notes du podcast. Jetez un œil et soutenez si vous trouvez ça cool. Sans plus attendre donc, Guillaume Klein.
Allô?
Bonjour Guillaume, comment vas-tu?
Salut Richard, ça va?
Oui, c'est mon prénom. Bravo.
Bah oui, hein, quand même.
Bah ouais, personne n'est parfait.
À force d'écouter.
Commence pas par ça. Je vais rougir et je vais me dire, oh là là, non. Fais comme si t'écoutais pas, que tu savais même pas et que ça t'avait servi à rien. Et
ouais,
voilà. D'accord.
Ok, on fait comme ça. Pas de soucis.
Voilà, moi ça m'arrange, ça m'évite. Parce que tu sais, malgré tout, je suis un peu timide hein, quand même. Hein, ça, je
ah
sais
ouais
que ça. Je
oh,
sais
on dirait que pas quand même. Hein.
Ouais, non, mais je sais parce que je travaille mon exubérance.
Ah,
mais
okay.
En fait,
ça sert à ça les podcasts en fait. c'est plutôt ça.
Ouais, c'est pas vraiment de la timidité, mais j'ai quand même du mal avec les compliments, avec tout. Donc,
ouais.
Quand on me dit,
ouais.
J'écoute ce que tu fais. Oh merde, je
ouais
me dis. Oh.
Oh non. Tu fais déjà ça par plaisir, c'est ça la base.
Ah oh non, ah oh non non, ça me plaît
non
pas. Attends.
Ah bah non, bah non.
Voilà. C'est comme le vélo, hein, j'aime pas ça. Hein. Et puis
ouais,
on,
ouais.
Bah, attends.
Personne n'aime ça.
Bah, ouais. Avoir mal au cul.
C'est clair. Bah, pédaler,
si.
Avoir mal aux jambes.
Oui oui, parce qu'avoir voilà mal au cul, bon, c'est autre chose, mais bref.
Ouais. C'est clair.
J'aime quand les converses, parce que. Malgré tout, on se connaît pas, hein. On s'est jamais
ah bah
parlé.
Ah, pas du tout. Pas
on
du
s'est
tout
jamais vu. Moi, tout ce que je sais, c'est que t'as fait la Race Across France, que t'es entraîné par un de mes potes.
Voilà, exactement.
Que t'es un gros moteur, en trail.
Ouais, ouais, ouais.
Bah, ça, c'est Johan
ouais
qui me le dit, hein.
Ouais, ouais, ouais.
Histoire
fait,
de
ouais
replacer
ouais
dans le contexte, il y a pas longtemps, ouais, on s'appelle, il me dit, ah, j'ai un nouveau client grâce à toi. Donc,
ouais,
il m'a fait
ça
un chèque. Évidemment.
Voilà, bah, je lui ai dit, hein, attends, tu peux demander des royalties, hein, y a pas de souci.
Ouais. Donc il m'a fait un énorme chèque. Là, je reviens de vacances aux Bahamas grâce à ça.
Ouais, voilà.
Et il m'a dit, dis donc, il veut faire du long à vélo, il en a jamais fait ou plus ou moins. Par contre, en trail, c'est un moteur. Il m'a annoncé 7 ans. Ha. Donc on va commencer
ouais
par là. Mon petit Guillaume, oh, tu vas pouvoir te présenter. Et on parlera également diététique après, parce que j'ai plein de questions à te poser. J'ai commencé
ouais
à faire mes Energy Ball tout à l'heure.
Ah,
et bah non, c'est pas bien parce que tout est collé au plafond. Donc,
T'as laissé le couvercle ouvert du Blender, alors.
Ouais, non, c'est autre chose. Ouais, ouais. Non, mais pourtant, ouais, j'ai l'habitude. Mais bon, là, non, ça n'a pas été. Donc, on va en reparler. Voilà.
Okay,
bon, Guillaume
okay
Klein, bonjour. Qui
salut,
es-tu?
Richard.
Enchanté. Et voilà, je te laisse.
Ok. Alors, ben, Guillaume Klein, bientôt 33 ans, là, dans deux jours, tu vois, c'est mon anniversaire.
Ah,
je
génial.
M'offre le cadeau d'être, de parler avec toi avant mon anniversaire, tu vois, parfait, quoi.
Ah, bah, ça me coûte rien, c'est merci, c'est le genre de cadeau que j'adore faire.
Et donc, ben, j'habite près de Metz, exactement près de Thionville. Donc, pour resituer un petit peu le contexte, dans l'est de la France. Donc, c'est relativement plat, hein, chez nous, hein.
Ah bon?
Ah oui. Il n'y a pas de, à part les Vosges qui est pas très loin, mais sinon il n'y a pas de grosses bosses ou de choses comme ça, quoi. Mais bon, on arrive quand même à s'entraîner correctement. Et oui, donc à la base plutôt trailer et coureur à pied.
Ouais.
Que cycliste, mais j'ai toujours gardé en fait une part de cyclisme dans mes entraînements, c'est-à-dire par exemple quand je faisais des préparations type trail, je faisais toujours en général 60% à 70% course à pied et puis le reste en vélo, quoi. Mais bon, jamais des sorties de plus de 100 km. Voilà. C'était toujours dans mes préparations 2 à 3 sorties grand maximum de vélo, une de 50-60, vélo de route, hein, je parle. Et une un peu plus longue, d'une centaine, j'avais jamais dépassé les 100 km. Et puis ben confinement un petit peu arrivé, les courses ont été annulées notamment en trail. L'objectif de l'année était l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc. Ça a été annulé. Et puis bon ben prenant au fil des années un peu plus le goût du vélo, je me suis dit ben je vais essayer d'un petit peu d'allonger les distances et puis de voir si s'il n'y a pas des courses à faire en ultra distance. Et puis j'ai découvert un petit peu qu'il y avait des courses ultra-distance à vélo, chose que je ne savais pas. Donc j'ai écouté tes podcasts, etc., qui m'ont fait découvrir des personnages de l'ultra-distance aussi. Et donc ça m'a donné envie de me lancer un petit peu des défis comme ça. Alors savoir qu'il y en a qui font des distances de jusqu'à 4000 km, ça me paraissait incroyable et impressionnant. Et donc voilà, ça me fascine en fait. Ce côté ultra distance à vélo me fascine un petit peu et je me dis ça me paraît incroyable. Si je ressens un petit peu la chose que quand j'ai débuté en trail, c'est-à-dire débuter par des 20 à 30 km, et ça me fascinait de voir ceux qui faisaient l'UTMB. Et en le faisant, je me suis dit oui, c'est dur effectivement, mais là voir qu'il y a des gens qui arrivent à faire des 4 à 5000 km à vélo, je me dis c'est bah, pour l'instant je me sens incapable de faire ça, quoi.
Donc j'en déduis que tu as déjà pris le départ et fini l'UTMB.
Oui, Diagonale des Fous aussi.
Ouais.
Voilà, plusieurs ultras. Diagonale des Fous, Trans-Grand Canaria, ça c'est la traversée de l'île des Canaries. Traversée de l'île de Madère aussi. Ultra Race à Annecy deux fois. Trail du Verbier Saint-Bernard. Donc chaque fois c'est des plus de 100 km, quoi.
Ouais.
Donc, mais les deux distances ultra, c'était l'UTMB et la Diagonale des Fous. Donc c'est 170 km.
En termes de résultats, histoire de donner une idée, parce que bon, on peut en parler quand même, histoire de donner une idée du moteur, en termes de résultats et de temps final sur l'UTMB et par rapport au premier, ça donnait quoi?
Bah, j'ai mis 28 heures pour l'UTMB.
Ouais.
Voilà. Ce qui m'a classé 70e de mémoire. Voilà. Sur la Diagonale des Fous, j'ai mis 33,59, ce qui m'a classé aussi au 87e à la Diagonale. Donc, sachant qu'il y a 2500 personnes au départ, quoi.
Oh, c'est pas terrible alors. Hein.
Ouais, non, c'est pas terrible.
Bah, attends, je vais appeler Yoel, je vais lui dire tu t'es foutu de moi, le gars, c'est, en fait, c'est un clampin.
Ah, mais t'as raison, c'est pas terrible, hein, parce que les premiers nous mettent 3-4 heures, quoi, tu vois.
Oui, mais donc, alors, d'accord, non, mais bien sûr, d'accord, les premiers te mettent 3-4 heures, mais sur une course, bon, alors
voire
évidemment.
Plus sur un UTMB, hein, sur un UTMB, ils te mettent, autant pour moi, ils mettent 21 heures, je crois. Donc, ils te mettent quand même une sacrée dose, quoi, tu vois.
Oui, mais comparé, par exemple. Bon, là, tu parles du premier qui est éventuellement, qui met 21
heures. Xavier Thévenard ou François Daen ou des gens comme ça, quoi, tu vois.
Toi, tu m'as dit combien déjà? 28, 29?
28, ouais, 28 heures.
Là, tu fais 70e. Déjà, passer la barre des 100, des 150, des 200 arrivants, ça représente quel écart après? Les niveaux sont très resserrés? Où il y a vraiment un gap, où est-ce qu'il y a vraiment un fossé entre, disons, les 20 premiers, 20 ans de premiers, et puis après, ça s'égrène. Ça se passe comment, la répartition?
Oui, il y a vraiment, on va dire, les 10, 20 premiers qui sont largement devant, donc en termes d'horaire. Et puis après, il y a un gros gap, c'est-à-dire qu'on va plus être dans des 35, 40 heures de course, quoi, tu vois. Donc, de mémoire, je crois que pour l'UTMB, on a 45 heures pour le faire. Au-delà, on n'est pas dans les barrières horaires. Ouais. Et pour la diagonale des fous, c'est encore plus long, c'est-à-dire qu'il y a 65 heures pour le faire. Donc là, les écarts sont incroyables. Donc quand tu mets toi par exemple 34 heures, il y en a qui mettent 65 heures quoi. Après, terminer quelque chose comme ça, c'est déjà une performance. Hein.
Oui.
Donc de traverser par exemple l'île de la Réunion, de faire le tour du Mont Blanc, c'est déjà en soi quelque chose de beau à faire déjà pour soi. Et c'est je considère que c'est très dur dans tous les cas quoi. Peut-être plus dur pour quelqu'un qui est à l'arrière du peloton encore peut-être.
Oui. Oui, oui, c'est de toute façon beaucoup plus dur pour les, entre guillemets, pour les non-pros ou les amateurs éclairés. Parce que les amateurs éclairés et les non-pros ont à gérer le poids de la vie quotidienne.
Ouais, exactement.
Ce que n'ont pas les athlètes pros et moins les capacités physiques, on va dire.
Même sur la course, tu vois, c'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui est vraiment dans l'arrière du peloton, il souffre peut-être plus. Il passe plus de temps sur le terrain, donc c'est plus long pour lui. Voilà. C'est sûr, c'est une grosse performance pour ceux qui sont premiers, mais c'est aussi une performance pour ceux qui font avec les moyens du moment, avec leurs moyens, quoi.
Carrément. La différence se fait sur quoi? Parce que toi, t'es un bon coureur à pied, François Daine ou Xavier Thévenard ou évidemment Kylian Jornet, il est hors du game parce qu'en plus il court très très vite sur du plat déjà de base.
La
différence se fait sur quoi? Parce qu'on peut pas parler de, VMA sur de l'ultra trail, on peut pas parler de watts.
Ouais, mais aujourd'hui, c'est parce que je coach des gens en trail, donc du coup, c'est ce que je leur dis toujours, c'est-à-dire ça. Aujourd'hui, en trail, et je pense que ça va se reproduire enfin en vélo aussi, en ultra distance, c'est-à-dire qu'il faut être bon un petit peu partout. C'est-à-dire que les mecs, ils sont rapides sur le plat, ils montent vite et ils descendent aussi très vite. Donc en fait, un trail, ça se gagne en montée, mais ça se perd en descente. Mais aussi, il faut être très bon sur le plat. Donc la différence, elle se fait partout. Mais je pense une petite quand même pour les descentes. C'est-à-dire que je pense que les grosses différences sur un ultra, elles se font là-dessus, quoi. C'est-à-dire sur les longues descentes qui font 10, 15 km en ultra trail, à quelqu'un qui va descendre 2 km/h plus vite, ça fait tout de suite à la fin d'une longue épreuve de 170 km, ça fait tout de suite une grosse différence, quoi. Après, il y a d'autres paramètres. C'est ce que j'explique toujours. Moi, je suis pas ultra rapide en course à pied, mais je vais essayer d'optimiser les autres facteurs. Ce que je peux optimiser, par exemple la nutrition, ou alors mes arrêts, par exemple. Je compte beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, je m'arrête très peu sur des ultra distances. Au ravitaillement, je gagne du temps là-dessus. Alors, mis bout à bout, à la fin d'un ultra, ça fait beaucoup. C'est-à-dire que si à chaque ravitaillement, on s'arrête 5 à 10 minutes, mis bout à bout, ça fait du temps à la fin. Alors que si on gagne un petit peu de temps là-dessus, on peut rivaliser avec quelqu'un qui est peut-être plus rapide en termes de vitesse pure ou capacité physique, quoi.
Ça, c'est le grand débat avec Johan. Et lui et son gros moteur aussi. Je cours vite, je roule vite, mais je pars comme une bourrique et au ravito, je m'arrête une demi-heure parce que je suis cramé.
C'est
Johan, tu vois. Et je sais qu'il m'écoute, donc là, il va dire « Ah, l'enfoiré !»
Mais il me l'avait dit. Il m'avait dit « Ouais, faut que je travaille là-dessus. » Je me souviens, quand j'avais fait mon 300 km là, à vélo par chez moi, il m'avait dit « Ouais, putain, tu t'es arrêté, mais très très peu. » Il me dit « Faut vraiment que je travaille là-dessus. Moi, je m'arrête un petit peu plus, quoi. » Je pense que ça peut... Sur un ultra, ça peut être... Comme j'ai regardé ceux qui font vraiment des ultra longues distances en vélo, il y en a qui dorment très peu. Ils font la différence peut-être là-dessus aussi après.
Carrément. Quand tu dis t'es pas un gros coureur à pied, t'as des références sur 10, 20 par exemple?
Ouais, alors 10 km j'ai fait 36-50. Voilà, donc j'ai pas c'est pas exceptionnel, hein. Quand on s'entraîne un petit peu, on peut facilement y arriver.
Bah oui.
J'ai commencé la course à pied en 2014. Donc après, sur semi, j'avais fait 1h58, mais j'ai pas refait de semi. Ça c'était au tout début que je courais, mais j'ai pas fait de marathon, j'ai pas fait de choses comme ça, quoi.
D'accord.
J'ai tout de suite été rapidement sur des longues distances.
Mais pourquoi?
Je sais pas, parce que ça m'a tout de suite plu. J'ai commencé avec un ami qui m'a un petit peu lancé là-dedans. Et on a tout de suite été sur des 20-30 km en trail. Et puis après, ben, dans les Vosges, par chez nous, un 50 km. Et puis après, un 70 km. Et puis, j'ai pris le goût du long parce que je voyais que j'avais une capacité de résistance et peut-être aussi au niveau mental, je sais pas. Mmh. J'ai tendance à pas trop lâcher, on va dire. Mais c'est clair que j'ai pas des capacités innées, quoi. Ça, c'est clair. En vélo, c'est pareil. J'ai pas des capacités incroyables, quoi.
Justement, en parlant du vélo, parce que j'ai fouillé un petit peu quand même tout à l'heure, j'étais en train de chercher une photo de couverture pour ton épisode, donc j'ai pris celle pendant la RAF ton vélo.
Ouais.
Oui, en même temps, sur ton vélo. Bah oui, j'étais à côté. J'ai tout fait en courant avec mon vélo à côté. Génial.
Bah oui, bah ouais.
Je finis juste sur un truc sur la course à pied. Ça t'a jamais tenté, parce que là, en fait, tu me disais. Gestion de course, descente, montée. Et je pensais à Courtney de Walter. Est-ce que ça t'a jamais tenté d'aller faire une grosse course aux États-Unis, tout simplement, ou ailleurs ? Tu vois, vraiment un gros trail.
Beaucoup plus long encore.
Ouais, éventuellement.
Ouais. Bah, si, en projet, j'aimerais pouvoir faire le Tour des Géants. Alors, je sais pas si tu connais ça.
J'en ai entendu parler quand même.
Voilà, ça,
c'est brutal, ça.
Ouais. Ça c'est violent, ça c'est vraiment violent parce qu'il y a des cols qui flirtent tout le temps avec 3000 mètres d'altitude, c'est plus de 300 km. C'est assez. Il y a des bases de vie, mais il n'y a pas des énormes ravitaux tout le temps, donc faut gérer aussi son autonomie. Mmh. Ouais, c'est assez. Voilà, ça ce serait quelque chose dans l'objectif. Après peut-être faire une traversée, mais sur plusieurs jours, moi-même, en projet perso, voilà. J'aime bien ça aussi, donc je sais pas. Voilà, à voir, à l'envie, mais oui, ça m'intéresse aussi.
D'accord.
Ça m'intéresse aussi.
Donc, le vélo. J'ai fouillé et j'ai découvert que ton père roule un petit peu aussi. Est-ce que c'est vrai? Voilà.
Oui.
Donc,
oui,
ça explique un petit peu ton lien avec le vélo, finalement. Parce qu'on a souvent ce lien.
Oui, il a toujours fait du VTT.
Ah,
toujours.
C'est pas grave.
Ouais, voilà.
C'est pas grave, on l'accepte quand même.
Plus de VTT. Bah d'ailleurs, il s'est mis au vélo de route vu que je me suis mis un petit peu plus au vélo de route. C'est-à-dire que avant, il n'avait pas de vélo de route, il faisait que du VTT, par exemple.
D'accord.
Donc voilà, il roule pas. Donc il a déjà fait Roc d'Azur. Chez nous, il y a une épreuve de 24 heures là de VTT. Voilà, il en a toujours fait un petit peu, quoi.
Ok. Toi, qu'est-ce qui t'a orienté vers spécifiquement la RAF? Pourquoi celle-là? Pourquoi pas une autre course? Pourquoi celle-là? Pourquoi ce format? Pourquoi cette course?
Alors, d'une part, j'étais tombé sur une vidéo YouTube de Arnaud Manzanini qui expliquait un petit peu sa traversée des États-Unis. Alors, ça m'a fasciné un petit peu la course, quoi, en soi. Et puis, j'ai vu qu'il organisait la Race Across France. Et donc, c'est resté un petit peu dans un coin de ma tête. Et j'ai aussi, je suis tombé sur tout ce qui est Biking Man parce que j'avais vu un reportage sur l'équipe 21. Mais là, ça me paraissait un petit peu long. Je me suis dit, ouais, je vais pas tout de suite commencer par ça. Donc, c'est pour ça que quand l'UTMB, on a appris que c'était annulé, je me suis dit, bah, tiens, allez, je m'inscris à la Race Cross France sur le format 300. J'avais hésité entre 300 et 500. Puis je me suis dit, je fais le 300. Mais à refaire, je me serais inscrit sur le 500. Tu vois.
Pourquoi? Parce que t'as pas peiné, en fait.
Parce que j'ai pas ressenti ces sensations que j'ai encore sur le vélo, j'ai pas ressenti ça. C'est-à-dire que ce que j'ai pu ressentir à l'UTMB ou à la Diagonale sur des ultras, je l'ai encore pas ressenti en vélo.
C'est-à-dire l'épuisement total?
Ouais, l'épuisement, le fait de se dire j'y arriverai pas, c'est impossible, voilà. Ça, c'est dur, hein, mais j'ai pas retrouvé encore ces sensations.
Parce que t'es pas allé à fond?
Parce que je suis pas allé. Ouais, je suis peut-être pas allé assez vite.
Il fallait mettre le grand plateau, mon gars.
Ouais, non, mais exactement. C'est peut-être ça, ouais. ou plus long, ouais.
Ouais.
Plus long. Là, pendant la RAF, par exemple, ça a été dur à des moments, mais jamais dans ma tête, je me suis dit, tu le termineras pas. Je savais que j'allais aller au bout, c'était sûr, quoi.
T'avais fait un 300 un mois avant, donc un 300 de préparation. Donc, t'es pas arrivé en slip avec les mains dans le slip.
Non. Mais bon, après, t'as l'inconnu quand même du dénivelé, de gérer un petit « j'avais jamais roulé de nuit », tous ces petits paramètres-là.
Oui, mais t'as couru de nuit, t'es pas un lapin de six semaines.
Oui, c'est clair. Non, mais
t'as couru de nuit dans les Alpes, autour du Mont Blanc, dans un environnement hostile.
Ouais, donc, ouais, non, mais c'est clair.
Après, la route du Ventoux de nuit, enfin.
Oui, voilà, voilà. Et justement, tu vois moins le relief, j'ai l'impression, de nuit. Alors, je sais pas si c'est une impression, mais.
Ouais, tu sais, les attaques de bouquetins sur le Ventoux, c'est pas tous les jours, hein, donc.
Ouais, c'est clair.
Ça arrive, ça arrive.
C'est clair, c'est clair, c'est clair.
Pourquoi tu t'es orienté vers ce vélo? Donc, t'as un look 785 US avec des super Corima. Celles-là, elles sont trop belles. C'est vrai qu'elles sont vraiment belles. On voit pas beaucoup de Corima, malheureusement. C'est vrai qu'elles sont vraiment cool. Pourquoi ce modèle-là?
Alors, moi, je m'étais acheté quand j'ai commencé le vélo de route, je m'étais acheté un look, un 765, il me semble, mais sans connaître, je connais rien en vélo, en fait, du tout. Et en fouillant un peu sur Internet, j'étais tombé sur le look, je me suis dit, au niveau de, esthétiquement, il me plaît. Donc, j'ai appelé les magasins de vélo autour de chez moi, je dis, est-ce que vous avez un look? Le premier qui m'a répondu oui, il m'a plu, je l'ai acheté. Donc. Mais c'était un trois plateaux encore. Donc, tu vois, je me suis fait un peu, j'ai mal renseigné.
Carrément.
Ah ouais, carrément, ouais. Trois plateaux, voilà. Donc, après, quand je voyais les autres vélos de route, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi moi j'ai trois plateaux et les autres ont deux plateaux? Enfin, voilà. Et donc, en fait, ce 785 USRS, c'est un cadeau de mes parents, justement. Donc, j'ai eu ça en fin d'année, en fin décembre. Voilà. Pour Noël. Ouais. Donc, avec les Corima. Et donc, j'ai donné mon ancien look à mon père, en fait. Voilà. Et c'est comme ça qu'il s'est mis. Il s'est mis. Voilà.
Une belle histoire familiale. Le vélo, souvent, c'est avant tout une histoire familiale.
Voilà. Transmission de. Voilà.
Exactement. Exactement.
Et en fait, pourquoi le IRSRS? Parce que le look, je sais pas, il me plaise. C'est un vélo français. Les Corima, pareil, je sais pas. Voilà, ça me plaît. Voilà. Au niveau de esthétique, tout simplement. J'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, il m'a dit, de toute façon, un vélo, il faut que tu me, il y a tout l'équipement, etc., faut qu'il soit performant, mais avant tout, faut qu'il te plaise. Et puis quand il m'a dit ça, je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est un peu vrai, quoi.
Oui, faut qu'on se sente bien dessus. Tu peux avoir une machine d'assaut, si on n'est pas bien dessus, ça sert à rien. Donc, il faut l'aimer parce que finalement, on va passer pas mal d'heures dessus, et puis, parfois pas très très vite, donc on a le temps de le regarder, il faut qu'il nous plaise.
Exactement. Ouais. Et donc, j'en suis, très satisfait.
C'est une valeur sûre, quand même.
Le vitesse électrique, ça, c'est un confort incroyable. Disque, je doutais un petit peu, puis au final, en montagne, c'est quand même bien aussi.
C'est redoutable.
Donc, voilà. Donc, très content du vélo.
J'ai eu malgré tout l'impression que t'es un poil haut. J'ai trouvé ton buste poil relevé. Ouais. Après, ça serait à rediscuter, à voir sur d'autres photos, à prendre l'avis d'un spécialiste, d'un mec qui connaît le vélo, quoi. Mais c'est juste une impression comme ça, voilà.
Peut-être parce que j'avais mal là après les 300 km. Tu vois, j'avais mal en haut des au cou là, tu sais, derrière. Donc je sais pas. Peut-être la position, peut-être t'as raison.
Non. Enfin, je sais pas. Il faudrait voir. Mais ça, c'est accessoire parce que t'es allé au bout sans peiner, donc c'est pas un problème. Hein. Comment passée ta transition, justement en termes musculaires, en termes techniques, de sortie, enfin de trailer à pur cycliste, on va dire. Au niveau technique, au niveau pédalage, bien entendu, rechoper de la puissance, finalement utiliser ton moteur, mais l'utiliser sur un vélo. Comment s'est passée cette transition?
C'est vrai que c'est ce que je disais justement à Johan. J'avais l'impression de manquer de, notamment en montée, de peiner un petit peu plus en montée, de manquer justement de puissance et de force, etc. Et c'est pour ça que les plans qui m'a fait là, c'était super, parce qu'on a vraiment ciblé sur un petit peu les points faibles que je trouvais, et on a travaillé justement en force, en montée, etc. Et ça a été bénéfique, parce que j'ai eu l'impression que même après sur le plat, j'arrivais à développer plus de vitesse et plus de puissance, quoi. Donc et après, au niveau de la transition, ça se passe correctement. Au niveau musculaire, c'est plutôt à l'inverse. Là, j'ai refait du trail et de la course à pied, j'ai les jambes explosées un petit peu, quoi. Donc le manque de travail excentrique que j'ai pu avoir avec le gros travail vélo, il faut remettre de nouveau la machine en route sur le côté course à pied et trail, quoi.
Tu te sens un peu pas empoté, mais un petit peu collé au sol, ça rebondit moins qu'avant, peut-être. Il y a moins de ce côté ressort.
Ouais. Malgré tout, je gardais, même pendant la préparation, Raph, j'ai quand même gardé 2 à 3 séances de course à pied par semaine, mais pas plus de 1 heure à 1 heure et demie et sur relativement plat, pas trop de. Parce que j'en avais parlé justement à Johan et il me disait, ben oui, c'est vrai que comme c'est un effort excentrique, ça peut être plus délétère que bénéfique pour ta progression à vélo, quoi. Ouais. Donc j'ai dit, bon, ben je limite la course à pied, je fais pas trop long et je me concentre que sur la préparation de la RAF, mais je voulais quand même garder cette dynamique un petit peu de course à pied pour pas perdre totalement, quoi.
Et tu roulais combien de fois par semaine? Tu t'es préparé sur quelle période et combien de fois par semaine?
Bah, donc tout de suite après le confinement, j'ai commencé. Bah, j'ai pas contacté Johan tout de suite, mais on va dire sur 3 mois, quoi. Hein. Ouais. Sur 3 mois, il y a eu 3 mois de préparation et on va dire un gros mois où j'ai joué. Ouais, je roulais quasiment tous les jours quand même, quoi.
Ouais. T'es sorti. Vas-y, excuse-moi, ouais. Je te laisse finir.
Non, mais voilà, je roulais quasiment tous les jours. J'avais juste un jour de repos où je fais rien. Voilà, j'ai juste un jour de repos par semaine en général où je me dis je fais rien du tout. Mais c'est compliqué. J'ai du mal avec ça.
Pourquoi ?
Donc, je sais pas. C'est un défaut de peut-être de depuis le début. J'ai l'impression de perdre mon niveau alors que c'est pas vrai. Hein.
Ah non, c'est carrément pas. Au contraire.
Ah non, ça fait partie de la progression. Et pourtant, je le dis aux athlètes que je suis. Hein, je leur dis, il faut aimer. Ouais, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Mais c'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai du mal avec ça, avec le repos. Mais bon, bref, il faut que je travaille là-dessus. Et en vélo, c'était un peu pareil. C'est-à-dire qu'il fallait que je sorte. J'ai l'impression que j'allais perdre mes watts, ma puissance, ma force, mais en fait, au final, non. On se rend compte qu'en laissant du repos, justement, au contraire, on a plus de jus, etc. Quoi.
On peut rouler, on peut rester une semaine sans rouler. Quand tu remontes sur le vélo, c'est exactement pareil.
Hein. Ouais, tu ressens pas de.
Apprends à parler, Richard, déjà. Et après, tu feras un podcast. est-ce que tu as vu hier sur l'équipe.fr dans la rubrique cyclisme, on apprenait que Arthur Vichot, double champion de France sur route, met sa carrière en pause à cause de surentraînement chronique.
Ah ouais, ah non,
j'ai
pas vu.
Et ça, c'est un truc dont on parle pas assez, c'est quasiment tabou chez les pros. Mais ah, le surentraînement et la fatigue et t'es fatigué, tu récupères bien, ouais ça va,
ouais, mais on a cette impression là. Et maintenant avec les ultras, je peux le quantifier, c'est à dire que par exemple l'année, j'ai fait une bonne année, une très bonne année 2018, c'était certainement ma meilleure année en course à pied en trail, où j'ai enchaîné vraiment pas mal d'ultras. Et j'ai fait cette UTMB là en 2018. Et en fait, 15 jours après, on m'avait invité sur un trail local, sur un 50 km. Et j'avais dit, bon, j'irai si je sens que j'ai récupéré. Mais 15 jours après un UTMB, tu peux pas dire que t'as récupéré. Et surtout pas pour faire un trail de 50 km. Donc j'ai quand même fait ce trail de 50 km, où j'ai terminé deuxième avec un ami qui avait aussi fait cette UTMB et qui lui avait terminé premier. Et donc, 3 jours après, une douleur un petit peu au tibia, j'ai quand même continué à m'entraîner. Bah, ça m'a coûté une fracture de fatigue au tibia, quoi, tu vois.
Bah, voilà.
Voilà. Donc, j'ai mis après 3 mois à revenir correctement, mais tu vois, j'aurais pas fait cette erreur-là. Voilà. Donc, ça, c'est des apprentissages. Ouais. Donc, maintenant, je suis un petit peu plus à l'écoute quand même, quoi.
Ouais, puis on perd rien et puis on gagne en frustration, tu vois.
C'est vrai, t'as raison, c'est ça.
Parce que tu roules pas, on roule pas pendant 3-4 jours, même avant un événement. Bon, on roule un petit peu, mais on se force à ne rien faire.
T'as envie de remonter sur le vélo, quoi.
Et t'as envie d'y aller, tu vois. Mmh. T'as envie de prendre ton vélo et de le jeter par terre parce que t'as tellement envie de rouler, t'as envie d'y aller.
Ouais, c'est ça.
Alors si tu roules tout le temps, bah t'es blasé. Bah.
Ouais.
Enfin, après, on est tous différents.
Est-ce que tu as ressenti ça déjà? C'est-à-dire que moi, chaque fois après les longs, j'ai une sensation un peu d'euphorie et puis j'ai envie de continuer à rouler, tu vois. Il faut absolument que je regarde qu'est-ce qu'il y a comme autre course longue à faire ou autre. J'ai cette sensation un petit peu d'euphorie qui dure un petit peu une semaine à 15 jours et après le soufflet il retombe un petit peu. Et j'ai l'impression que c'est sur cette période-là qu'il faut vraiment plus faire attention, en tout cas dans mon cas, parce que sinon j'ai tendance à me cramer, quoi, tu vois.
Je serais tenté de dire ça, tu l'apprendras le jour où tu auras des enfants.
Ouais, Ouais.
Parce que quand tu découvriras les joies de l'organisation l'organisation pour la préparation d'un objectif et le soin quotidien apporté aux enfants, tu découvriras que quand l'objectif est passé, bah, t'as envie de contenter tout le monde et de rester une bonne semaine peinard à la maison.
Ouais,
et qu'on te fasse pas chier avec, ouais, tu vas encore faire du vélo.
Ouais, c'est vrai. Non, mais oui.
On l'apprend tout de suite, mais oui, les deux, trois jours après un truc, j'ai envie de repartir.
Ah ouais, tu te dis.
Et puis après, tu te dis, oh là.
Ouais, calme-toi.
C'est du vélo, on se détend, c'est pas si grave que ça.
C'est clair.
Et puis voilà. Alors, comment s'est passée cette épreuve, finalement? Parce que j'en déduis que t'es arrivé bien préparé. Comment tu as appréhendé le roulage de nuit? Comment tu t'es documenté et comment tu as préparé cet aspect matériel?
Faut préparer ça. Je l'ai pas trop préparé. C'est-à-dire que j'ai roulé une fois une demi-heure de nuit avant, c'est tout. J'avais pas envie en fait, mais je sais pas pourquoi.
J'ai roulé 30 minutes
de nuit. Je me suis dit ça va passer. T'inquiète pas. Et donc, au final, je suis parti avec Alors, j'ai demandé un petit peu des conseils à droite à gauche en termes de lampes, et j'ai acheté une Lesine. Alors, je sais pas si c'est bien. Voilà, une Lesine 1100 XL Macro Drive, quelque chose comme ça.
Avec un nom aussi compliqué, ça peut être que du bon matos.
Ouais. Et au final, j'avais pris la frontale avec, quand même.
Ouais.
Et j'étais plus à l'aise avec la frontale qu'avec la lampe.
Moi, je sais pas pourquoi non plus, tiens. T'as fait un UTMB à la frontale, comme par hasard, tu sais mieux t'en servir que d'une lampe de vélo.
Ah ouais, et la lampe
incroyable.
Me perturbait plus qu'autre chose.
Dis donc.
Et quand j'ai allumé la frontale, donc du coup, j'ai fait que avec la frontale, en fait.
Ben voilà. Bon, faut aussi remettre dans son contexte, hein. C'était la semaine dernière, en plein cagnard.
Ouais.
C'était pas la Sibérie, donc.
Non, je te dis, en plus, j'ai allumé la frontale, je crois, à 21h30. J'ai pas fait non plus. Énormément d'heures de nuit, et puis voilà, comme tu dis, il n'y avait pas des conditions de météo comme de la pluie ou autre qui permettent d'avoir encore plus de problèmes de visibilité, quoi.
Ouais. Oh oui, à la frontale, sur la route, si tu aperçois les bandes sur le côté et la bande du milieu, ça va déjà, t'es tranquille, hein. C'est en tout terrain où c'est un peu plus difficile, il faut en avoir deux
pour
avoir la rotation de la tête et dans les épingles notamment, les trucs comme ça, les gros changements de direction. Mais vraiment basique, freestyle, amateurisme total, j'adore.
Total.
Génial. Mais on pourrait dire amateurisme, non. Confiance en soi, c'est important la confiance.
Oui, confiance, oui et non, je sais pas. Ouais,
bah si, tu savais que tu y arriverais.
Oui, avant de partir, je savais que si. En fait, moi, mon antise, tu sais ce que c'était, c'était d'avoir un problème mécanique. En fait, c'était ça.
Ah bah oui, c'est vrai que si tu connais rien au vélo, il fallait pas qu'il y ait d'embrouille.
Ouais, moi, voilà, c'était de changer une chambre à air, ça j'arrive, mais tu vois, j'ai acheté un dérive chaîne, je me suis dit, ouais, si je pète la chaîne, mais j'aurais dû changer ça aurait été une galère pour moi parce que je suis pas très manuel. Voilà, des choses comme ça. Moi, même à la fin, hein, je faisais attention au passage des vitesses et tout. Je me dis, ne casse rien. Voilà. C'était plus ma hantise de ça qui me disait ne pas aller au bout que moi, physiquement ou mentalement, quoi.
Ouais. Bon. Ça laisse une belle marge de progression quand même, parce que finalement, t'es encore un coureur à pied, t'es pas encore devenu un vrai cycliste. Au bout du compte.
Ouais, non, je pense. Oui. Ouais,
sauf le bronzage, que... peut-être, mais c'est pas,
ouais, le bronzage,
c'est pas
ouais,
ça c'est... qui fait le coureur.
Ouais, c'est clair.
Et ton épreuve, ça s'est passé. Bon, j'en déduis que ça s'est bien passé, mais est-ce que tu peux revenir sur le déroulé, l'ambiance même, parce que
on en
parle pas beaucoup. Arnaud, c'est un mec sympa, donc autant parler un peu de son épreuve.
Déjà très belle organisation, hein, ça y a pas de souci. On a été bien mis en confiance, hein, tant au niveau des traces, etc. Moi j'avais aussi un petit peu la hantise là parce que au niveau du GPS, la trace GPS. Donc quand je l'ai rentré, je me suis dit est-ce que ça va bien fonctionner, etc. Donc aucun problème avec la trace GPS, super. Et donc on partait en fait toutes les deux minutes. Donc les coureurs partaient toutes les deux minutes par ordre décroissant du numéro de dossard. Donc moi ayant le numéro 333, je crois que je suis parti au milieu un petit peu de tout le monde. Donc, je suis parti à 11h30, en fait. Donc, en pleine chaleur. Alors, ça, au début, ça a été très compliqué, quand même. Il a fait très, très chaud pour sortir là de Mandelieu et puis monter après vers Grasse, etc. Et on monte sur les hauteurs avec la route Napoléon. Et je me souviens, dans le col de Blaine, c'est un col qui nous emmène assez haut au début du parcours, là au 50e kilomètre. Il y a beaucoup de dénivelé au début, en fait. C'est-à-dire que sur 50-60 kilomètres, je crois qu'on avait déjà 1800 ou 2000 mètres de dénivelé, quoi, quelque chose comme ça. Et après, on redescend dans les gorges du Verdon. Donc là, ça a été un petit peu mieux, mais au début, un peu compliqué. Il a fait très, très chaud, quoi. Mmh. Il a fait très, très chaud. Puis après, gorge du Verdon, très bien. Il y avait un petit peu de vent, donc la température un petit peu rebaissée. Et puis, arriver dans le Luberon, etc., c'est relativement plat, quoi. Jusqu'au Ventoux, j'ai trouvé que c'était relativement très roulant, en fait.
Ouais.
Ouais, j'ai trouvé ça très roulant. À part le col de Mur. Alors, je sais pas si tu connais, c'est le col de Mur avant le Ventoux. Il y a un petit col là qui fait 200-300 mètres de dénivelé. Donc c'est...
Attends, je suis en train de regarder le parcours. Effectivement, ouais, je connais toute la partie Gorge du Verdon jusqu'à Manosque.
Ouais,
je connais très bien. Et puis après, direction Manosque, enfin de Manosque vers le Ventoux, je connais un peu, mais moins bien.
Mais c'est bon, c'est des points qui sont...
Par contre, ça crame, hein. T'es passé donc sur Gorge du Verdon, Plateau de Valensole, tout ça.
Ouais.
J'y étais il y a un mois et c'est insupportable, c'est infernal.
Ah oui, il faisait super chaud. Donc au début, ça a été très compliqué là-dessus à gérer ça. Et puis, j'avais jamais roulé aussi avec tout le matos. Ouais, erreur, quoi. Et oui, dans le premier col, je me suis dit, voilà, oh putain, c'est quand même, il faut quand même l'emmener, quoi, hein, le vélo, hein, avec un petit peu le matos, etc. Donc, bon, après, ça a été. Après, en redescendant dans les gorges du Verdon, on va dire que ça a été mieux. Et puis, jusqu'au Ventoux, ça a été bien. Je trouvais que ça déroulait vraiment, vraiment bien, même sur le plat, etc. J'étais vraiment, vraiment bien. Après, bon, s'attaquer au Ventoux à la fin, ça a été quand même pas facile non plus, quoi. Voilà.
Vous êtes monté par quel côté?
À partir de Bédouin. Voilà. Donc, le début a été assez coriace, on va dire.
Il est dur, hein.
Ouais, le début est dur. Ouais. Il y a des sacrés coups de cul comme ça qui sont assez. Après le chalet Renard, ça va un petit peu mieux, quoi.
Ouais. Ce qui est dur par Bédouin, enfin c'est la montée parce qu'il y a un seul virage à droite, un peu plat qui permet de reprendre son souffle sur 15 mètres, tu vois.
Ouais.
Mais
ouais,
c'est 10 km à 10% et il y a que quand on aperçoit enfin les chalets dans la forêt de sapins qu'on se dit ça y est, j'arrive au bout. Puis après le chalet, bon, les virages sont larges. Les virages sont larges, on peut reprendre de la vitesse. Pour peu que le vent soit favorable, on prend le vent arrière à chaque fois. Et puis après, il faut survivre au dernier kilomètre à 11%, et puis c'est bon.
Ouais. Mais là, il n'y avait pas de vent, donc tu vois, j'ai pas.
Quelle chance.
Ouais, nickel. Voilà.
Parce que tu sais quand même que Ventoux en provençal, ça veut dire très très venteux ou plus ou moins.
Ouais. Je me suis dit, on va se prendre des rafales là en haut, et puis rien du tout, quoi. En fait.
Non.
Je me suis dit même, il va faire froid, pas froid, donc voilà.
Bah, c'est aléatoire. Des fois, il neige alors qu'il fait bon, et je crois que je l'ai monté il y a 4 ans en courant un 25 décembre et je suis monté en short et en t-shirt.
Ah ouais.
Il faisait un temps de fou, c'était dingue. Et c'est une montagne, hein, donc tu le sais mieux que moi. C'est des fois il fait beau, des fois il fait pas beau.
C'est aléatoire, c'est clair.
Par contre, quand il fait mauvais, c'est l'enfer.
Ouais, j'imagine, ça doit être une catastrophe.
T'avais quoi dans tes petits bagages?
Alors, dans les petits bagages, tu vois, je pense que j'en ai pris trop aussi à refaire, je prendrais pas autant.
Ah, ça, c'est une erreur classique de débutant.
Ah ouais. Donc, qu'est-ce que j'avais? 3 chambres à air, je pense que 2 ça aurait suffi déjà. Ouais, tu crois? Ouais. Qu'est-ce que j'avais de. J'avais pris un power bank au cas où. Ouais. Je m'en suis pas servi. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre que je n'aurais pas eu besoin? J'ai pris 2. J'avais une Petzl, donc j'ai pris un chargeur supplémentaire encore en plus. Mmh. Ma lampe de vélo, donc tu vois, ça faisait 2 lampes plus le chargeur. Enfin voilà, je pense que j'aurais pu limiter un petit peu en matériel, quoi.
Un réchaud aussi peut-être.
Ouais, réchaud, tente, la tente.
Ouais, bah ouais.
La tente.
La parabole.
Ouais, exactement. Bah, oui. Un Mac, je me suis dit dans le Ventoux, si j'y arrive pas, je me colle entre deux arbres et puis.
La glacière.
La glacière, exactement. Non, mais ouais, je pense un petit peu le matos, un petit peu à limiter. À la base, je voulais même partir avec un pneu, tu vois. Donc je me suis dit.
Ouais, ouais,
enfin... Au cas où tu exploses un pneu. Voilà. J'avais surtout peur de ce côté-là, en fait. Vraiment du côté matos qui me lâche. Ou, dès qu'il y avait un bruit sur le vélo, je me suis dit, oulala, le vélo est en train de me lâcher. Donc, voilà.
C'est à ces signes-là qu'on voit que tu as encore... T'as une belle marge de progression parce que finalement t'avais pas dompté ton matériel et tu le maîtrisais pas comme tu, enfin je me moquais gentiment, mais maîtrises la frontale de A à Z et ça veut dire que t'avais pas entièrement confiance en ton matériel parce que tu l'as finalement pas utilisé tant que ça et t'as pas été confronté aux aléas de la route donc. Donc c'est super cool, c'est pas là je me moque pas, au contraire, c'est une super bonne nouvelle parce que c'est super, tu vas pouvoir maintenant t'allonger sur des trucs bien plus longs ou plus durs et là tu as déjà un capital confiance déjà bien conséquent donc c'est superbe, c'est super.
Ouais, tout à fait. Mais en trail ça a été pareil aussi hein, c'est-à-dire qu'au début je partais aussi avec je me suis dit il faut que je prenne ça au cas où etc. Et puis au final, à force, même sur des ultras, je partais le plus léger possible. Au contraire, j'essayais d'être le plus léger possible, quoi. Donc maintenant, sur une épreuve de cette distance-là, en vélo, je sais qu'il y a des choses que je ne prendrai plus. Parce que j'ai, comme tu dis, tu as un petit peu plus confiance en ton matériel, quoi.
Alors, tu sais quoi ? Il y a quelques semaines, tu l'as certainement écouté, j'ai fait un épisode avec Frédéric Bernard, l'organisateur de la Gravel Trobrez, et il a dit une expression qui n'est pas de lui, bien entendu, parce que c'est un roi du plagiat. Donc je cite Samuel Bécuve, organisateur de la French Divide, si t'emmènes un truc au cas où, ne l'emmène pas.
Je l'ai entendu.
Et là tu l'as dit à l'instant.
Voilà, ouais, c'est clair. Ah mais c'est vrai, c'est ça. Et... En fait, dès qu'on se dit je mène ça au cas où, allez hop, faudrait le mettre de côté quoi, c'est tout.
C'est pas facile hein. Parce qu'on
se dit,
merde,
pas facile.
Quand même.
C'est pas c'est clair, c'est pas facile. Mais et puis sinon sur la RAF, super ambiance entre les coureurs, c'est ce que j'ai voilà, je retrouve cette ambiance que je retrouve en trail aussi, c'est-à-dire convivialité etc., l'entraide, chaque coureur qu'on rencontre c'est des encouragements etc., enfin j'ai trouvé que c'était vraiment génial par rapport à ça quoi. Et j'ai pu rencontrer Clémence que tu as eu on a été au briefing ensemble. Et on a assisté au briefing ensemble, donc super sympa, Clémence.
Bah oui, quand même.
De toute façon, tous ceux qui sont sur, qui viennent sur Spotzel sont super sympas.
Ah non, il y a des cons. Hein. Oh là, il y a des cons. Oh là là. Ah non, on s'en rend pas compte comme ça, mais il y a des cons. Hein.
Ouais.
Johan, moi. Donc Clémence d'ailleurs je vais mettre peut-être que ça sera en ligne d'ailleurs vous l'entendrez aussi mais je vais mettre ses impressions audio parce qu'elle m'a envoyé des petits trucs Clémence en audio.
Ah cool.
Donc l'épisode avec Stéphane a ouvert la voie des carnets audio sur les épreuves. J'en ai deux à mettre en ligne. Donc c'est top quoi. C'est vraiment cool. Maintenant, on va parler alimentation parce que t'es quand même le gérant de Nutri Diet Sport et il me semble que tu travailles pour une belle équipe de foot par chez toi. Une équipe de L1, je crois.
Le football club de Metz,
Eh ben voilà, super. Ouais. Donc on va parler de ça maintenant. Alors qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi cette boîte ? Tu vends des barres énergétiques ? C'est du conseil ? C'est quoi ?
Voilà, en fait, je viens pas du tout de ce milieu-là à la base. C'est-à-dire qu'en 2014, j'ai eu un petit peu un changement radical de vie. Mmh. Je faisais pas de sport du tout, etc. avant 2014. Donc, mon ami qui m'a amené vers la course à pied m'a aussi amené vers tout ce qui est alimentation, diététique, prendre soin de soi, etc. Et c'est devenu un petit peu une passion. Donc, j'étais à la base commercial et responsable commercial dans tout ce qui est vente automobile. Donc, j'ai quitté mon travail pour me lancer pleinement là-dedans, dans le coaching, etc. Donc, j'ai refait une formation. Je suis reparti en formation. Et donc, j'ai fait une formation en micronutrition et nutrithérapie sur Montpellier. Mmh. Et donc, j'ai eu mon diplôme. Et puis, je me suis mis comme ça à faire des consultations. Alors, tout d'abord pour tout ce qui est santé, etc. Et faisant du sport, j'ai attiré une communauté de sportifs. Et donc voilà, coaching en diététique, en nutrition, et coaching aussi en trail running. Donc ça, c'est tout ça, c'est sur mon site internet de toute façon. Mmh. Et donc j'ai été contacté au niveau local par ce football club de Metz pour donner du conseil en diététique pour les joueurs, quoi, directement. Donc mmh. aussi au centre de formation. Donc c'est venu comme ça. Parce que le kiné, tu vois, c'est le sport qui amène là, parce que le kiné, en fait, du football club de Metz faisait du trail. Et il a appris un petit peu les résultats que j'avais en trail. Il est tombé sur moi, il s'est dit, oh bah tiens, on cherche un nutritionniste, et il est nutritionniste, donc on va le contacter. Et puis voilà, on a sympathisé, et puis c'est comme ça que c'est venu.
Le courant est passé, c'est aussi simple voilà. que ça. Voilà.
Exactement, exactement.
Quand tu dis micronutriments, c'est ça ?
Micronutrition.
Micronutrition ouais. et quoi d'autre ?
Et nutrithérapie, bon, ça c'est en fait c'est deux appellations, mais c'est simplement remettre un petit peu au centre les bienfaits de l'alimentation, d'une part sur la santé globale. Voilà, ça c'est le socle, c'est ce que je dis toujours. Oui. C'est-à-dire que souvent j'ai le sportif qui vient me voir, il me dit ouais, je prépare cette course-là, je veux être performant à telle et telle date. Qu'est-ce que je... Mais il va raisonner que à l'instant T, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois manger pendant la compétition ou éventuellement la semaine avant, tu vois. Mais rarement bien en amont. Et comme je leur dis toujours, surtout sur les ultra-distances, c'est bien en amont que ça se prépare. C'est-à-dire que le socle alimentaire, il doit être cohérent, vraiment, on va dire, au mieux 3 mois à l'avance, mais c'est toute l'année que ça se travaille, pour avoir une santé globale optimale et qui te permet justement, après, sur tes ultra-distances, de ne pas avoir de problèmes digestifs et d'être performant à l'effort.
Donc ça veut dire quoi en termes de d'aliments, de choix, parce que tu l'as, je sais pas si tu l'as écouté, mais il y a quelques mois j'ai fait un épisode avec Myriam dont son nom m'échappe,
qui mangeait que des fruits, c'est ça, non ?
Qui mange des fruits, et j'ai eu une j'ai jamais répondu à ça, et j'ai eu une myriade de messages m'accusant de diffuser des informations dangereuses avec ce régime alimentaire. J'ai pas répondu parce que chacun est libre.
Chacun est libre,
Elle a le droit de manger comme il veut, comme elle veut, et même si effectivement il y a eu 2-3 informations un petit peu branlantes dans le truc, notamment le coup de la tribu au fin fond de la jungle qui mange que des trucs bizarres et qui sont fertiles jusqu'à 80 ans.
Après, de toute façon, chacun va prêcher pour un petit peu le régime alimentaire. Voilà, quelqu'un qui est cétogène, il va dire c'est génial. Je mange aucun glucide, ça me convient très bien. J'en parlais encore ce matin justement avec mon père, et on parlait de ça, un peu de cétogène, etc. Et c'est ce que je lui disais, c'est-à-dire que en fait chacun est différent. Tu vois, il y a des bases communes, mais ce qui convient à l'un ne conviendra pas forcément à l'autre. Et après, pour moi, tout ce qui est un petit peu extrémiste et excluant, ça marche peut-être sur un instant T, mais peut-être pas sur le long terme, pour moi en tout cas. Et j'ai testé pas mal de choses. J'ai testé le cétogène, j'ai testé crudivorisme, j'ai testé végétarisme, etc. Déjà rien que de mettre un nom, tu vois, normalement ça devrait être naturel, l'alimentation, tu vois.
Ouais, ça devrait être source de plaisir. Mais déjà quand tu mets des noms méga compliqués, ça sent la prise de tête à plein nez.
Exactement. Et en fait, tout ce que tu peux en ressortir de ça, c'est que dans chaque type d'alimentation, il va y avoir un type de bénéfice que tu vas pouvoir en retirer. Mais ce qui revient à chaque fois, et pour ma part, c'est vraiment l'équilibre qu'il faut. C'est un équilibre global qu'il faut trouver, et pour soi-même, quoi, en fait. Mais pour moi, tout ce qui est vraiment restrictif, un petit peu extrémiste et excluant, ça marche, mais pas sur le long terme.
En fait, il y a quelques semaines, il y a pas si longtemps que ça, je crois, il y a 3 semaines, j'écoutais un épisode avec Kate Courtney, qui a été championne du monde de cross-country, VTT. Et le mec l'interviewait, donc c'est un autre VTTiste de haut niveau qui a son propre podcast, c'est hyper intéressant. Et il lui demandait, enfin, il l'interrogeait sur son régime alimentaire, et justement, il expliquait qu'elle évite, et lui aussi d'ailleurs, tous les deux évitent les régimes trop extrémistes. Pour une raison aussi toute simple, c'est qu'eux sont amenés à voyager et que tu peux pas forcément trimballer ton mode alimentaire avec toi quand tu vas dans un bled quelconque. Et c'est aussi...
En fait, faut savoir s'adapter, quoi.
Ça manque de souplesse, et puis...
Puis c'est pas que tu sois dépendant de ton, ouais, de ton type d'alimentation, quoi.
Exactement. Donc, c'était très intéressant. Alors, j'ai oublié son deuxième argument. Malheureusement, je mettrai l'épisode dans les notes du podcast. Et tous les épisodes sont à dévorer. C'est hyper intéressant. Bon, c'est en anglais, mais c'est super intéressant. Et du coup, quand on parle d'alimentation en ce moment, ce qui revient beaucoup, c'est tout ce qui est sucre et produits laitiers. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu?
Ah, tout à fait. Alors là, par expérience, tout ce qui est sucre raffiné, on va dire, parce qu'on confond souvent, tu vois, j'ai des gens et en consultation, je leur dis, est-ce que vous mangez des sucres, etc. Non, moi, je mange pas de je rajoute pas de sucre, etc. Mais ils confondent sucre et glucides déjà aussi. Donc, souvent, ce qui revient quand même dans les consultations, et que ce soit sportif ou lambda, c'est qu'il y a un excès de glucides quand même au quotidien. C'est-à-dire, qui dit glucides, c'est tout ce qui est pain, pâtes, riz, fruits, même le sucre que tu rajoutes, gâteaux, etc. Les glucides, il y en a un petit peu partout, quoi. Mais globalement, ce qui revient, c'est qu'il y a vraiment un excès de glucides et un excès de glucides de mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'on va privilégier quand même des glucides qui vont avoir une diffusion dite lente pour avoir une énergie un petit peu plus progressive, tu vois. Donc, on va éviter les farines blanches, par exemple, le pain blanc, etc., tu vois, au quotidien. Au quotidien, ça c'est quand même tant la quantité qu'il faut limiter mais il faut privilégier une qualité des glucides, donc plutôt des céréales complètes que des céréales blanches, etc. Donc ça, glucides, il faut y prêter une attention particulière. Et pour quelqu'un de sédentaire, moi je dis toujours, voilà, il y a des problèmes d'obésité aujourd'hui, mais je pense que c'est à cause d'un excès de glucides et par rapport à une moindre dépense énergétique qu'on avait auparavant, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'on bouge de moins en moins, mais on mange de plus en plus de glucides et sucre, mais de sucre en plus rapide. Donc, on est tout le temps dans cette stimulation au niveau de l'insuline et puis ça peut créer des problèmes, quoi.
Alors, je connais déjà la réponse, mais est-ce que tu peux revenir sur le mécanisme de transformation des sucres raffinés en graisse? Et justement du cercle vicieux avec l'insuline.
Ouais.
Pourquoi l'alimentation riche en sucre fait grossir?
Oui, alors en fait, si tu veux, quand tu vas manger par exemple, ton corps il a une capacité de stockage. Donc voilà, en termes de glycogène. Donc si tu consommes plus que ta capacité de stockage, eh ben, le corps il va transformer cette énergie supplémentaire en graisse comme réserve en fait. Donc tu vas, entre guillemets, plus tu vas consommer de glucides par rapport à ta capacité de stockage, plus tu vas avoir un excès de poids. Donc ce qui explique les problèmes aujourd'hui que peuvent rencontrer certaines personnes parce qu'elles consomment trop de glucides. Et qui dit glucides aussi, tu vois, c'est aussi tout ce qui est soda, tu vois, ça c'est des sucres que j'appelle volatiles. Voilà, ça c'est des sucres hyper concentrés et hyper rapides. Et si tu consommes, voilà, 3-4 canettes de coca, par exemple, par jour, tu peux, d'une part, tu vas stimuler tout le temps ton insuline et puis tu peux t'amener à avoir des problèmes de diabète sur le long terme si tu le fais fréquemment. On parle pas d'un coca, hein. Voilà. Et souvent on fait un petit peu l'amalgame avec ça, c'est-à-dire que on diabolise cette chose-là, mais si tu le fais pas fréquemment, ça va pas avoir un impact hyper négatif, on va dire. Mais si tous les jours tu consommes 2-3 canettes de coca, c'est là que ça en devient délétère pour ton organisme.
Bah, un petit peu comme tout finalement.
Un petit peu comme tout, voilà.
Tu fumes une clope un jour, c'est pas la fin du monde.
Exactement, exactement. Tu vois, voilà. Donc, glucides, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est à limiter par rapport à sa dépense énergétique.
Donc, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Parce que tu disais les fruits, tu vas pas me dire qu'il faut se limiter sur les fruits quand même.
Ah non, pas du tout. Des glucides de qualité. Voilà, ouais. Des glucides de qualité, c'est-à-dire fruits, légumes frais, patates douces par exemple, tu vois, et plus passer sur des céréales complètes. Donc à la place du riz blanc, on va prendre du riz complet, tout ce qui est légumineuse aussi, c'est intéressant. Donc tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges, etc. Donc tout ça, c'est des sources de glucides qui peuvent être intéressantes. Flocons d'avoine, flocons de sarrasin, tout ça, voilà. Bon, ça c'est mieux que des gâteaux transformés, des pâtes blanches, du riz blanc, etc. Tu vois.
Tout ce qui est alors ma fille appelle ça des graines à oiseaux, mais bon,
Ouais, ouais.
tout ce qui est graines de courge, graines de lin, graines de chia,
voilà, c'est les acides
goji,
gras essentiels
comme ça.
Ouais, ça c'est bah bête goji, ça c'est plus des fruits secs, mais tout ce qui est oléagineux et graines, c'est très très bien. Donc ça c'est intégré à son quotidien. C'est-à-dire que ça c'est des acides gras essentiels et ça va t'apporter par exemple des bons oméga 3. Donc un anti-inflammatoire naturel et ça tu vas le trouver par exemple dans tout ce qui est noix, amandes, noisettes, tu m'as parlé des graines, etc. Toutes ces choses-là sont graines de lin très riches en oméga 3 aussi, tu vois. Donc ça c'est des acides gras dits essentiels. Donc ça c'est à intégrer à son quotidien, mais ça va pas t'apporter une grosse quantité de glucides. Donc c'est une autre catégorie d'aliments, on va dire.
Ouais. Bah en fait là nous ici on sait parce qu'avec le nourrisson, il y a eu quelques soucis digestifs pour le garçon. Donc
ouais.
Ma femme a éliminé tout ce qui est laitage et gluten.
Bah, très bien.
On est passé sur fromage blanc au lait de brebis.
De brebis,
ouais.
Très bien, parfait.
Mélangé avec des mélanges de graines. Alors ça me fait beaucoup rire, graines de courge.
Évidemment. Ouais, bah, très bien. Non mais c'est bien, c'est très très bien.
Tu vois des mélanges, on s'est fait plein de mélanges. Et du coup, on consomme ça à bloc de manière raisonnable. Et
ouais,
on a arrêté, tiens-toi bien, on a arrêté le grignotage.
Ah, tu vois, c'est bien. Et ça, tu vois, c'est encore un révélateur de ce que j'ai en consultation. Souvent, le gros du problème, par exemple, ça va être les grignotages. Et à cause de quoi ? À cause justement d'un excès de glucides de mauvaise qualité. C'est-à-dire que tout le temps, on a des pics de forme, on va dire, et des pics d'insuline qui nous font monter notre énergie. Mais derrière, il y a une grosse redescente. Donc, on va avoir tendance à grignoter. Alors que si tu as toujours une constance dans l'énergie, par exemple quand tu prends ton petit déjeuner le matin, si ton petit déjeuner est adapté, tu n'auras pas ces coups de faim dans la matinée qui vont t'amener à grignoter entre les repas. Et la majorité des personnes que j'ai en consultation, rien qu'en modifiant ce paramètre-là, notamment du petit déjeuner, d'avoir un petit déjeuner pas classique à la française avec pain, beurre, confiture, qui est très riche en glucides, et en modifiant le petit déjeuner, eh ben on a cette régulation dans l'énergie toute la matinée. Et donc ils me disent ouais c'est fou, j'ai plus faim le matin, alors qu'avant à 10h coup de pompe j'étais obligé de manger et puis à midi pareil j'avais de nouveau refaim, etc. quoi.
T'as mis exactement les mots sur les sensations dont on parle de temps en temps ici. Là depuis qu'on a changé ça, le matin je prends un petit bol de fromage blanc avec des graines.
Ouais.
Du pain que je vais chercher à la boulangerie, donc il y a deux sortes, soit pain Hastings ou pain Viking, globalement des trucs noirs.
Ouais, ouais.
Tu es contre le pain blanc, le pain blanc, moi je prends du noir, voilà.
Bah c'est bien, voilà.
Donc je sais même pas ce qu'il y a dedans, mais c'est bon, avec du beurre quelconque.
Ouais.
Et puis et la semaine dernière, j'ai dit à Bérangère, bah tu vas pas me croire, je me sens beaucoup plus régulé. À vélo,
ouais, ben voilà. Exactement.
Sans être, pas de baisse, de grosse baisse de jus. Enfin, j'en ai eu une un petit peu hier, mais j'avais pas mangé assez aussi avant de partir. Et puis j'avais fait 3 heures, donc et j'avais ressenti, tu vois, déjà ça fait un an en fait que je cherchais cet état un petit peu plus stable, parce que l'année dernière sur une grosse gravel, je m'étais nourri de pizza et de coca et
ouf, là tu vas me faire mal là, en me disant ça.
Et non bah il faisait chaud hein, donc j'avais prévu ça et puis en fait, je me suis dit mais non, c'est vraiment pas une bonne idée parce que la digestion quand tu sors de ta pizza à 13h, faut se traîner, tu sens déjà que les pneus sont bien plus écrasés, le coca est très mauvaise idée, donc depuis je cherche la bonne idée. Et maintenant ce que je recherche c'est un état beaucoup plus stable,
ouais.
Où j'ai pas de grosse euphorie mais j'ai pas non plus de gros
exactement. Mais tu vois, pour quelqu'un qui fait de l'ultra distance, c'est un petit peu cet état qu'il faut rechercher, tu vois. Et par exemple, c'est ce que j'essaie de leur dire même après pendant l'épreuve. C'est-à-dire que c'est pareil, il faut rechercher cet état-là. Si tu commences avec des gels énergétiques très concentrés en glucides, tu vas avoir tout de suite un pic d'énergie. Mais derrière, ça va redescendre. Et tu vas être tout le temps dans cette alimentation. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer de partir avec des apports énergétiques plus gras et plus protéinés pour avoir une régulation dès le début. Et éventuellement, sur la fin de l'épreuve, tu vois, par exemple, sur la fin de ma raf là pour monter le Ventoux, j'ai pris quelque chose, une barre énergétique un petit peu plus sucrée, parce que je sais que c'est la fin de l'épreuve, que je peux me permettre d'avoir un coût d'énergie un petit peu plus important. Mais sinon, tout au long de l'épreuve, de la RAF, là, j'ai toujours eu les mêmes apports énergétiques avec des barres énergétiques plus protéinées et plus grasses que riches en glucides, tu vois. Et donc, ça me permet d'avoir pendant l'épreuve toujours quelque chose de nivelé. Voilà, pas de coup d'euphorie, mais pas de coup de moins bien non plus.
J'ai deux questions dans une.
Ouais.
Tes barres, ce sont des barres que tu fais toi-même ou c'est un...
Non, ouais, c'est des barres. Enfin, j'en ai testé pas mal. Et là, bon, après, on peut dire les marques. Hein,
bon, oui, vas-y. Au contraire, c'est recommandé.
Alors, il y a Baou. Je sais pas si tu connais.
Ouais.
Voilà.
Fabriqué en fait, je recherche. Annecy, très bien.
Ouais. Je recherche vraiment des produits les plus naturels et nobles possibles. Donc, Baou, il y a Enduractif qui est très très bien. Alors ça, je fonctionne avec lui depuis longtemps. C'est quelqu'un de Chamonix qui faisait en fait ses propres produits énergétiques. Et tout le monde lui disait, mais il faut que tu te lances, il faut que tu fasses tes produits énergétiques toi-même. C'est excellent, c'est naturel, etc. Et donc, je consomme ces produits. Donc, par exemple, il a des barres énergétiques à base de pâte d'amande, tu vois, des barres aux fruits. Enfin, c'est des produits bio et naturels. Donc, là-dessus, il y a vraiment quelque chose de bien. Et il fait aussi une boisson énergétique. C'est de la maltodextrine de manioc.
J'allais te poser la question sur le malto, justement, parce qu'on en a parlé récemment.
Ouais.
Et on m'a fortement conseillé le maltodextrine.
Ouais, très bien, très bien. Bah, j'utilise ça, maltodextrine de manioc, là, c'est. Et je varie, en fait. J'utilise aussi, alors, je sais pas si tu connais, Meltonic.
Oui.
Voilà, donc là, j'utilise eux que leur boisson énergétique, que je trouve très bien, qui est un petit peu plus concentrée en glucides, mais qui a aussi un petit peu d'extrait de caféine, de ginseng, etc. Donc, avec un peu plus de minéraux. Et j'aime bien, elle a un bon goût, elle est ou citron ou menthe, donc elle me réussit très bien. Mais ça, c'est pareil, tu vois, les produits énergétiques, on peut donner des conseils généralistes, mais c'est pareil, il faut que tout le monde teste en amont de l'épreuve. Et tu vois ce que tu me disais avant avec le matériel, mais avec l'alimentation, c'est la même chose. Ne jamais tester des barres énergétiques le jour de l'épreuve. Ouais. Ça, c'est... Voilà.
C'est peut-être même réussi, c'est peut-être même pire que sur un matériel mal connu en fait, parce que
tout à fait.
Bon, les deux peuvent être assez funestes, mais partir avec un cuissard que tu connais pas, ça peut être dangereux, mais partir avec une bouffe que tu connais pas,
ouais, exactement.
Comme dit Stéphane, il y a un gros risque de perdre sa dignité à un moment donné.
Ouais, exactement, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Et avec l'alimentation, c'est pareil. Et après, une autre indication aussi, c'est-à-dire que pendant une épreuve comme ça d'ultra-endurance, ce qu'il faut retenir, c'est que qu'il faut s'alimenter un petit peu, mais tout le temps, en fait.
Ouais.
Tu vois? C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, j'ai pas faim, je m'alimente pas.
Ah, oula.
Tu vois, là, toutes les 20 à 30 minutes, j'avais un apport énergétique, même si j'en avais pas forcément envie. Mais ce qui te permet d'avoir pas une grosse fraction alimentaire d'un coup, et surtout de ne pas avoir une fringale. Parce que si t'as une fringale, tu sais, comme moi, t'avances plus, quoi, après.
Tiens, excellente suggestion, merci.
Ouais.
Comment on se remet d'une fringale?
Ben, déjà, peut-être s'arrêter un petit peu. Ou alors rouler un petit peu plus doucement si on est en vélo. Et alors se réalimenter, ça c'est certain, mais éviter de se réalimenter avec des sucres très rapides. Ben, moi c'est ce que je conseille en tout cas. Maintenant ils vont te dire l'inverse. Maintenant ils vont dire ouais, ben faut tout de suite faire remonter la glycémie. Mais pareil, si tu fais remonter trop vite la glycémie, derrière tu vas avoir de nouveau ce coup de moins bien.
Ouais.
Donc on va plutôt attendre un petit peu plus longtemps. Mais ralimenter un petit peu en sucre, mais moins rapide, pour que ça remonte de nouveau progressivement. Voilà. Mais il faut attendre de toute façon. Fringale, t'as pas le choix, faut attendre. Il n'y a pas de remède un petit peu miracle, quoi.
Je finis sur un truc sur le sucre, parce que là on parle beaucoup de coups de haut, de coups de moins bien, de ça va, ça va pas, d'euphorie, etc.
Ouais.
Est-ce que l'apport en sucre va avoir un effet justement sur le moral? Est-ce que la stimulation de l'insuline va envoyer un message au cerveau en disant il y a plus de sucre, faut en manger vite, vite, vite?
Ouais. Alors bon, ça aussi, tu vois,
j'imite très mal l'insuline. Hein.
Alors ça aussi, tu vois, ça je pense qu'il y a une grosse notion de psychologie là-dedans. C'est-à-dire que plus tu habitues ton organisme à lui donner des glucides rapidement, plus il va l'utiliser facilement, tu vois. Donc il sera jamais mis en défaut. Donc c'est pour ça que par exemple, je fais des sessions moi personnellement d'entraînement où je vais pas donner de glucides à mon organisme, pour me retrouver peut-être sur des épreuves longues comme ça, où je peux pas m'alimenter, mais où j'ai déjà connu cette sensation-là quand même. Tu vois. Donc par exemple, la dernière sortie longue là avant la RAF, j'avais fait 110 km, où j'ai rien donné du tout à mon organisme en termes de glucides. Je me suis hydraté tout simplement, mais tu te rends compte qu'en fait, effectivement, au bout d'un moment, ton cerveau il t'envoie une information, j'ai besoin de glucides, j'ai besoin de glucides, et tu te rends compte qu'en laissant passer un petit peu la chose, eh ben en fait, tu te rends compte que ton organisme il utilise une autre filière pour apporter de l'énergie. Des réserves, on en a. Avant de vider complètement nos réserves, on en a vraiment. Mais ça se teste à l'entraînement aussi. Et essayer justement de pas trop donner de glucides à l'entraînement pour que lors de la course, quand tu vas donner plus de glucides, eh ben que tu profites un petit peu de cet effet boostant que peuvent donner les glucides, tu vois.
Voilà. Quand tu dis pas amener trop de glucides et profiter d'une autre filière, tu penses à quelle filière?
Ah bah justement, la filière des graisses, nous on en a besoin, quoi. C'est-à-dire que sur une ultra-endurance, on va essayer de favoriser l'utilisation, enfin ce qu'on appelle la lipolyse, quoi, l'utilisation des graisses comme source d'énergie. Donc oui, les glucides, on en a besoin, mais il faut pas que ce soit la source d'énergie principale, enfin que ton organisme soit habitué à ne fonctionner qu'à ça, tu vois. Et en course à pied, je prends un petit peu l'exemple. Souvent, là, j'ai été inscrit dans un club d'athlétisme. Et souvent, ceux qui venaient, par exemple, du foot, avaient une grosse capacité sur la piste, par exemple, sur des efforts très intenses. Parce que, d'une part, musculairement, ils étaient habitués comme ça. Et d'autre part, parce que, ils avaient l'habitude de fonctionner majoritairement sur la filière des glucides. Et dès qu'on les emmenait sur des sorties un petit peu plus trail et plus longues, eh ben, au bout d'une heure et demie, deux heures, il y avait un petit peu plus personne, quoi. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils avaient du mal à se mettre à utiliser leur graisse comme source d'énergie, quoi. Tu vois?
Ça veut dire qu'il faut l'entraîner, cette filière, ou est-ce que, si t'es à sec, elle se déclenche naturellement?
Elle se déclenche quand même naturellement. Ouais. C'est-à-dire que si t'es vraiment à sec, tu vas pas être aussi performant. Après, c'est comme tout. Il faut faire des entraînements où tu en donnes pas, mais ne pas habituer aussi l'organisme à ne pas fonctionner, ne pas savoir utiliser les glucides aussi. C'est pour ça qu'il faut faire des entraînements où tu vas donner beaucoup de glucides pour tester un petit peu ta tolérance maximale aussi à l'effort, tu vois. Là, il y en a qui parlent de 80-90 grammes de glucides par heure d'effort, ce qui est déjà une tranche très très haute, mais il faut tester sa propre tolérance. Donc, ne pas rentrer dans le cétogène, ne plus donner de glucides, mais ne pas rentrer dans l'effet inverse à en donner trop aussi, il faut faire les deux, en fait. Il faut faire des entraînements où tu vas pas en donner du tout. Comme ça, tu es habitué aussi à ressentir ces sensations-là aussi, ce que tu pourras retrouver peut-être en course sur de l'ultra-distance, parce qu'il n'y a pas toujours des ravitaillements, il n'y a pas toujours de quoi avoir à manger sous la main, etc. Donc, tu sais que tu es habitué à ça. Et profiter un petit peu de cet effet boostant que tu peux ressentir quand tu vas donner des glucides justement à l'effort. Pareil avec le café, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, ça c'est ça, Xavier Thévenard qui fait ça avant un UTMB, deux ou trois semaines avant, il supprime le café, lui, tu vois, et arrivé aux abords de l'épreuve, et pendant l'épreuve, il va en utiliser pour profiter vraiment de l'effet boostant. Oui. Parce que sinon, tu as ce phénomène d'accoutumance tout le temps, quoi, tu vois.
Voilà. Sacré Xavier.
Ouais, sacré Xavier. Ouais.
Du coup, je te conseille, tout ce qui est écouté, d'aller, si vous êtes habitué à télécharger illégalement, allez-y, foncez. Ou alors sur YouTube, mais il est payant et puis il est en français, c'est beaucoup moins intéressant. Ouais. De télécharger un documentaire qui s'appelle donc en français sur YouTube, c'est Sugarland. Le titre, le vrai titre anglais-australien, c'est That Sugar Movie. Okay. Et ça reprend justement ça détricote tout ce mythe du, on en avait parlé avec Myriam déjà, tout ce mythe du sucre contre le gras. Et pourquoi notre alimentation est de plus en plus sucrée, les méfaits du sucre c'est sur clair. L'organisme. Excellent truc. S'il y a un truc à voir ces temps-ci, c'est vraiment celui-ci.
Ouais, tout à fait.
Également, oui, vas-y. Pardon.
Puis voilà, c'est, on en revient au même en fait. Tu vois, c'est ce que je conseille toujours en alimentation, c'est-à-dire ayez une alimentation brute, variée et la plus vivante possible. Effectivement, si t'achètes tout le temps des produits emballés sous plastique avec un million de d'édulcorants et d'ingrédients, etc., automatiquement, tu sais très bien que c'est pas bon pour ton organisme. L'alimentation, ça doit être simple. Après, là, on rentre vraiment dans un petit peu plus le spécifique parce qu'on fait du sport, donc on va se dire bah voilà combien j'ai besoin de glucides, combien j'ai besoin de protéines, etc. Mais la base de ton alimentation, ça doit être quelque chose de brut, de varié, de vivant et de non transformé. C'est ça la base de tout quoi, en fait, pour être en santé et pour être performant à l'effort. Si tu fais ça, tu as déjà fait une grosse partie du boulot. Après le reste, c'est que de l'affinage quoi, en fait.
Ouais, l'objectif c'est quand même d'être en bonne santé au final.
Ah ben l'objectif c'est que d'être c'est d'être en bonne santé.
C'est ça.
Voilà. Si t'es en bonne santé, automatiquement après derrière ben, tu pourras être plus performant. Donc il faut pas voir que l'alimentation, parce que souvent c'est un peu le défaut du sportif, on voit que l'alimentation sur le côté performance. Qu'est-ce qui va me faire booster mon énergie? Qu'est-ce qui va faire que je vais être meilleur à l'entraînement et en compétition, etc. Mais la base, le socle de tout, c'est vraiment la santé de ton organisme et sur le long terme quoi. Donc voilà.
Bah voilà, super.
Ouais, ben non, mais c'est ça.
À la conclusion, dis donc. Bah voilà.
C'est clair. Ah, c'est un tic de langage, tu vois, tu m'as fait ressortir.
Non, mais t'inquiète, j'ai le même. Ouais. Le soir, des fois, je raconte des histoires à ma fille, elle me demande plein de trucs, et je finis par. Bah voilà. Papa, raconte-moi l'histoire de la princesse et du dragon. Et tu vois, il fait ci, il fait ça, la princesse, elle est emprisonnée dans une tour, le dragon. Il la libère, et voilà.
Et voilà, c'est tout.
Tu m'étonnes qu'après.
Chuté.
Ah, tu m'étonnes que j'arrive pas à l'endormir avec des histoires aussi nulles.
C'est clair.
J'ai perdu le fil de ce que je voulais raconter à force de raconter des conneries.
Oh, je sais plus ce que tu disais.
Pff, bah, des conneries, comme d'habitude.
Ouais.
Si, j'ai une petite question sur le gras. Est-ce que le gras, c'est toujours bon ou est-ce qu'il faut quand même limiter certains types de gras? Si je me fais une salade, disons, carottes râpées, avocat avec de l'huile d'olive, est-ce que je peux en manger à m'en faire péter le bide ou est-ce qu'il faut quand même y aller mollo?
Non. Alors, c'est pareil, tu vois. Ça, c'est souvent, on me dit, par exemple, les fruits, c'est bien, c'est une bonne source de glucides, mais c'est pas pour autant qu'il faut en manger, il faut pas pour autant manger 10 bananes par jour, quoi, tu vois. Le gras, c'est pareil. Les noix, les avocats, les graines, etc. C'est très très bien, mais il faut rester dans la norme quantitative que tu as besoin, quoi, en fait. Hein. Donc oui, c'est bien, mais toujours rester dans une norme quantitative. Alors par exemple, on va rentrer dans des chiffres. J'aime pas trop donner des chiffres parce qu'après c'est en gros pour une personne, tu fais ton poids fois 1,2 à 1,5 grammes par kilo de poids de corps. Et là, t'as ta quantité de gras que tu dois consommer un petit peu par jour. Donc journalièrement.
Répète la formule.
Alors 1,2 à 1,5 grammes par kilo de poids de corps. En gros. C'est à peu près ça. Et donc par exemple, tu prends des noix, des avocats, etc. Ça c'est très riche en gras. C'est des bons gras, c'est des bons acides gras. C'est clair. Mais comme tu dis, il faut pas en manger à t'en faire exploser le ventre non plus, quoi. Parce que d'une part, tu vas avoir un surplus calorique, ça c'est clair. Et d'autre part, tu vas avoir un apport en gras qui est trop important par rapport à ce que tu dois avoir, quoi.
D'accord. Donc le sucre raffiné, quand il arrive dans l'organisme, le corps n'est pas capable de le transformer en énergie ou de le stocker. Ça, c'est ce que vous apprendrez en regardant That Sugar Movie. Le gras en excès, il devient quoi lui? Il est stocké lui aussi?
Oui, mais oui, c'est pareil, il est stocké. Il est stocké. Après, ce que tu disais le sucre, oui, quand il est en excès, il est stocké en graisse aussi. Le gras, c'est la même chose. Simplement, le corps, c'est plus difficile au corps de transformer des graisses en source d'énergie que des glucides. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut habituer le corps à utiliser cette filière-là pour justement pallier le fait qu'ils se mettent que en fonctionnement sur les glucides, tu vois. Après, il y a aussi la notion de intensité, c'est-à-dire que si tu es en haute intensité, ton corps il va utiliser que des glucides. Donc c'est pour ça que après quelqu'un par exemple qui est en cétogène, il va avoir du mal à faire des exercices à haute intensité. parce que il aura une réserve de glycogène, bah, notamment au niveau musculaire, qui sera très peu importante. Mmh. Donc tu vas avoir, donc c'est un double tranchant, c'est-à-dire que tu vas être moins performant sur des efforts d'intensité. Donc qui dit que tu es moins performant sur tes efforts d'intensité, tu vas moins progresser aussi.
Bah oui.
Tu vois, automatiquement. Donc oui, peut-être tu vas être bon sur de l'ultra distance, sur le long. Mais si tu veux avoir une notion de progression et développer des watts et de la puissance, etc., il faut que tu fasses des exercices à haute intensité. Mais si tu n'arrives pas à les faire, donc tu ne peux pas progresser.
Ouais.
Voilà. Donc voilà, tu vois, j'ai redit voilà.
Bah voilà. ce qui signifie que, là je vais en reprendre un exemple perso. Ouais. Moi je suis sorti du confinement avec un léger surpoids.
Ouais.
un enfant, moins de vélo, du grignotage divers.
Ouais.
Je suis sorti du confinement, j'avais peut-être 7 kilos en trop. Je pense que j'ai pris 5-6 bons kilos pendant le confinement.
Ok.
En évitant le régime hardcore cycliste pro, je bouffe que de la salade pendant un mois, parce que je l'ai entendu.
Ouais.
Ça, je l'ai entendu.
Ouais.
Comment on planifie, sur quel délai on peut... je fais juste une parenthèse, j'ai un mail de Alvaro Madrazo à l'instant qu'arrive. Alvaro, c'est un mec du Nord qui commercialise et conçoit des produits énergétiques à base de gras. Très, très bien. Très, très bien.
Ah, ok, super.
Ça,
bonne
c'est
info.
Une publicité gratuite. Je vois son message passer. Donc, super. Je t'enverrai les coordonnées de son truc. D'ailleurs, je vais le dire tout de suite. Parce qu'en plus, c'est vraiment un mec sympa. Oli Fat. Donc, Oli comme...
Je connais, mais j'ai vu un petit peu passer sur Facebook, mais j'ai essayé de voir s'il y avait un site internet et je l'ai pas trouvé, justement.
Ouais. Bah écoute, je t'enverrai le...
C'est H-O-L-Y, c'est ça.
Ouais, Oli comme, la Terre Sainte.
ouais.
Voilà. Pour ceux qui veulent faire du sport en Israël.
Ouais.
Ben non, mais tu rigoles, mais il y a plein de super épreuves en Israël. C'est
la folie. J'ai entendu que tu avais été un petit peu fan de t'as déjà été là-haut, hein, c'est
oula,
ça?
Oula.
Non?
Ouais, j'adore.
Ouais. J'ai entendu sur un épisode, tu disais que c'était top de rouler là-haut, etc.
Alors, j'y ai pas roulé, j'y ai travaillé.
Ouais.
Mais j'ai pas roulé, et de toute façon, on pouvait pas rouler parce qu'il y avait trop de trous sur la route à cause des obus. Mais oui, pour y travailler, c'est marrant. Pour y bouffer, c'est encore meilleur. Et Israël, pour la bouffe, c'est terrible.
Ah ouais.
Ah, c'est génial.
Ouais.
Okay. Ah ouais.
Ah ouais, je pensais pas, tu vois.
Ah bah, le régime méditerranéen, à fond les ballons, les tomates et l'huile d'olive.
Ah ouais.
Les falafels et tout, les pois chiches.
Pois chiches, etc. Ouais,
le houmous, c'est quoi ça?
Houmous. Ah, super.
Ah ouais,
super.
Non, mais.
Il faut aller en Israël, alors.
Mais grave, Israël, c'est trop cool. Enfin,
bon, ouais.
Pas pour tout, mais pour la bouffe, bouffe, c'est top, en tout cas. Et les Israéliennes. Voilà.
Ouais. Bon, on va retenir que le positif, alors, si on va là-haut. Voilà.
Exactement. Ça, c'était la parenthèse. Donc, sur combien de temps on peut planifier une perte de poids?
Ça dépend du métabolisme de chacun, tu vois aussi. Et ça dépend de ce que tu vas mettre en place aussi.
Ouais.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est éviter d'être trop restrictif dès le début. C'est-à-dire que oui, effectivement, par exemple, pour reprendre l'exemple des régimes du camp et hyperprotéinés, ça marchait très bien, mais sur le court terme, pourquoi? Parce que tu supprimais toute source de glucides, tu gardais quand même des protéines et tu gardais un petit peu de gras. Donc automatiquement, tu étais en déficit d'une part calorique et tu n'avais pas d'apport en glucides, mais tu continuais par exemple à t'entraîner.
Ouais.
Donc effectivement, tu séchais. Mais tu séchais rapidement, mais qui dit rapidement, après, le problème qu'il y a, c'est que le corps, il a été mis en défaut. Donc t'as mis un petit peu ton métabolisme au ralenti. Le jour où tu reprends les glucides, le corps il se dit, ou toi tu m'as privé, comme tu m'as privé, je vais les stocker encore deux fois plus. Tu vois, ça fonctionne un petit peu comme ça. Donc il y a une mise en réserve qui se fait de façon encore plus importante. Donc il y a eu des grosses prises de poids après, et voire plus après ces régimes hyperprotéinés. Ce qu'il faut, c'est réduire un petit peu sa part de glucides, certes, continuer à s'entraîner, créer un petit déficit quand même calorique, garder toujours ses apports en protéines et en graisse, mais de façon progressive. Si tu fais trop de restrictifs d'un coup, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnera sur le court terme, mais tu vas les reprendre après. Donc après, te dire une date comme ça, je pourrais pas te le dire exactement, mais on va dire sur 2 à 3 mois, tu peux déjà avoir quand même quelques résultats. Hein. Vraiment.
Là, tu sais, en 3 semaines, le résultat, il est déjà étonnant. Hein.
Ah ouais. Non, mais si tu vraiment, tu veux perdre,
roule,
par exemple,
roule
une dizaine
plus,
de kilos, quoi.
J'ai même pas une dizaine de kilos à perdre, j'en ai 5.
Ouais. Bon, là, ça peut aller rapidement, quoi.
Et
ça peut aller très rapidement.
Je roule pas beaucoup en ce moment, mais par contre, je fais attention à la bouffe. Également, dans la série conseils, est-ce que tu connais Jean-Paul Stéphan? J'ai fait un épisode avec lui il y a un petit peu moins d'un an.
Ouais.
En septembre, je crois, il a été champion de France de cross country pour la 13e fois la semaine dernière.
Ouais.
En master.
Ouais.
Et pareil, tu vois, je conseille à tout le monde de le suivre, son blog sur Facebook, parce qu'il donne beaucoup de conseils sur les légumes, sur les produits laitiers comme on parlait à l'instant, tous ces trucs-là. Et quand tu vois le niveau de performance qu'il arrive à maintenir à 50 et quelques années, ça donne quand même un petit peu à réfléchir. Et là, récemment, il y a eu une conversation avec... pareil, un autre ancien invité, Cédric Dubois, qui lui aussi a arrêté les sucres et les produits laitiers.
Ouais.
Et on est tous d'accord pour dire que le gain vaut vraiment le détour, parce qu'on se sent tous beaucoup mieux, en fait.
Ah bah, tout à fait. Mais, pour revenir un petit peu aux produits laitiers, tu as une meilleure digestion au quotidien, quoi. C'est-à-dire que, et même après, il y en a qui en ressentent des bénéfices, tu vois, au niveau articulaire, maux de tête, etc. Il y a plein de bénéfices à réduire sa part de produits laitiers, notamment produits laitiers de vache, et à ne pas rentrer aussi dans le côté outrancier de la consommation des produits de brebis ou de chèvre, hein, c'est pareil. Hein. Donc il y a des bénéfices vraiment à en retirer, et notamment sur quand tu fais des épreuves sportives ou que tu fais du sport tout simplement, quoi. Voilà.
Non, parce que là en plus c'est le moment où je sais plus quoi dire, donc c'est toujours le moment gênant où je constate que nous arrivons à... Attends, laisse-moi regarder, à 1h20.
Ouais. Ah ouais, parce qu'on pourrait en parler des heures, quoi. Hein,
bah ouais, ouais, sauf que j'ai pas, sauf que, sauf
ah oui,
que j'ai
oui,
pas
oui,
que ça à foutre, hein. Donc,
ah bah ouais, bah moi non plus, hein. Attends.
Bah ouais. Donc, tu veux faire quoi maintenant, cette année? T'as conclu une belle épreuve, mais maintenant tu vas te tourner vers quoi?
Alors j'ai envie d'un peu de reprendre quand même le trail, de me retester sur une épreuve de trail, mais peut-être pas trop longue, enfin on va dire pas trop longue, peut-être un moins de 100 km, ou un 70 à 80 km, et j'ai envie quand même de passer le cap supérieur sur une épreuve de d'ultra distance en cyclisme. Alors je sais pas quoi, mais je pense que un 1000 km m'attirerait bien déjà, quoi. Alors après laquelle, je sais pas, peut-être un biking man, je sais pas. Il faut que ça me donne envie, il faut que je regarde une vidéo, que ça me fasse rêver, ou que le nom il me donne envie. Je sais pas, je fonctionne un petit peu comme ça, tu vois. Toutes les courses auxquelles je me suis inscrit, faut que ça, je sais pas, faut que ça me parle, quoi, tu vois.
Ah, t'es une victime du marketing, hein, quand même.
Peut-être
carrément,
ouais.
Parce que épreuves super cool à moindre coût, parce que il y en a plein et qui coûtent que dalle, il y en a des tonnes, mais c'est vrai qu'on retient toujours les épreuves avec un budget marketing, des vidéos de bâtards qui font rêver.
Exactement.
Mais
ouais.
Je pense,
mais je suis sûr, comme tu dis, il y a peut-être
plein
des épreuves moins connues,
carrément, et plus difficiles, non moins prestigieuses, parce que quand tu les conclus, t'as quand même mal aux pattes.
Ouais.
Mais voilà, c'était un petit plaidoyer. Mais bientôt, je vais faire un épisode avec 3 organisateurs pirates.
Ah,
donc voilà. Tu pourras écouter un petit peu mes amis Olivier, Romain et Bertrand. Donc 3 personnes à qui il ne faut surtout pas faire confiance, parce qu'ils n'ont qu'un seul mot de vocabulaire pour dire difficile, caillou. Montée, descente, difficile pour eux. Ils résument ça, t'inquiète, c'est roulant.
Ouais, t'inquiète, ça passe, quoi.
Non, mais ça passe, c'est bon, t'inquiète. Et puis, t'arrives plein d'espoir en disant super, c'est roulant, il m'a dit que c'est roulant. Donc, je vais pouvoir mettre du braquet. Et là, t'arrives dans un champ de mine, c'est que du caillou. Laisse tomber, tu te dis, mais ça roule. Bah oui, ça roule à côté du vélo.
Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien.
Donc, je me moque gentiment parce que je les aime beaucoup tous les trois et on va faire un épisode vraiment spécial pirate de l'organisation. Parce que tous les trois organisent des trucs hyper difficiles, hyper intéressants et c'est vrai qu'ils sont pas sous les feux des projecteurs, on n'en entend pas parler. Ils passent pas à la télé, tu vois, ils passent pas sur France 2. Mais pour se les farcir, c'est quand même difficile.
Ok. Ouais. Après, il faut aussi que moi, ce qui me fait rêver aussi, c'est le parcours en soi. Oui, ok, que ce soit difficile, mais c'est aussi le paysage que tu peux rencontrer. Tu vois que ça me dépayse, quoi. En fait,
ils sont tous dans le sud. Alors, t'inquiète pas, toi, le mec de Metz, tu vas être dépaysé. Ouais. T'inquiète pas.
Ok. Bon, alors c'est parfait. Nickel. Voilà. Ça me va.
Je vais te laisser pour ta minute de solitude, mais avant cela, merci.
Merci à toi, hein, c'était un plaisir. Hein.
Merci d'écouter. moi j'y suis pour rien là-dedans. S'il y a personne qui écoute, je sers à rien. Donc merci à vous tous, merci à toi et merci à tous d'écouter malgré tout. Parce que raconter des conneries dans un micro, c'est pas bien compliqué. Hein.
Non, mais bon, tu vois, ça m'a permis de découvrir plein de choses, découvrir des personnages de l'ultra distance, des conseils, etc. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Et merci pour ça. Mais vraiment, merci pour ça.
Eh ben, pas de quoi. Voilà. mon petit Guillaume, je te laisse pour ta minute de solitude. Tu connais le principe. Donc, gros bisous et à très bientôt. Ouais. Merci encore.
Ok. Merci. Salut, Richard. Alors, la minute de solitude. Eh ben, déjà, merci à Richard pour l'invitation. Ça a été un plaisir de débattre un petit peu de tout ça, de la race cross France, du parcours que j'ai pu avoir avec le vélo, sachant que je viens pas du cyclisme. J'ai pu découvrir Johan par rapport au podcast, qui m'a fait un super plan d'entraînement et je lui remercie parce que je suis arrivé avec des capacités que je pensais pas développer en cyclisme. Et en si peu de temps, j'ai été surpris quand même de la progression en cyclisme. Donc, continuez à vous lancer des défis, c'est que ce que je peux dire. C'est-à-dire que il y a que le sport qui peut nous faire vivre de telles émotions comme ça. Faites-vous plaisir, que ce soit en trail, en course à pied, en vélo, et lancez-vous des défis. Voilà, c'est ce qu'il faudrait retenir et que on a des capacités insoupçonnées. Et je pense que on peut aller bien au-delà de ce que l'on pense. Et donc, je dirais voilà. Pour terminer, je dirais voilà. Merci à tous. Salut.